L'actualité des Alpes du Sud et les syndicats ne lâcheront rien demain contre la réforme des retraites.
Mobilisation ce mercredi à Gap, Digne-les-Bains et Briançon où un blocage filtrant sera mis en place au rond-point de Leclerc.
Une décision prise à contre-cœur.
La station de Montclar a fermé ses portes et ses pistes ce dimanche, une semaine avant. Pas assez de neige, le réchauffement climatique et la pluie auront eu raison de la station ubayenne.
Trail, randonnée via ferrata, les activités de pleine nature ne manquent pas sur Provence Alpes Agglomération.
Mais le schéma pour les structurer, oui, un manque comblé hier avec un document courant jusqu'en 2026 pour cibler 14 actions allant dans le sens du développement de l'outdoor.
Un mot de politique avec Jean-Pierre Gandoir, élu maire de Crau dans l'Embrun.
Arrivé en tête au premier tour, il remporte aussi le second malgré la fusion des deux listes d'opposition. Carole Chauvet démissionne.
Et puis un haut alpin aux habits olympiques.
Ils sont au métier ce que les Jeux paralympiques sont au sport. Éric Pellia, l'araignée, a été victime d'un accident du travail. Il s'est depuis reconverti dans le graphisme. C'est dans ce domaine qu'il laissera parler son talent à la fin du mois de mars à Metz. Ce membre de l'équipe de France s'entraîne depuis 2 ans.
Et puis on parlera de l'art de la calade qui n'est pas perdu.
À Volonne, on le fait revivre, la calade ou la pratique qui consiste à pierrer les rues. Elle s'est un peu oubliée avec le bitume. Mais dans la commune basalpine, depuis 2020, on s'affaire à calader le chemin de Charéras. Et pendant 2 semaines, ce sont des jeunes venus du Liban ou de Tunisie qui viennent s'y former. Météo.
Oui, avec une ambiance bien refroidie hein, pour ce mardi. Quelques précipitations qui reprennent ce matin avec de la neige au-dessus de 1000-1200 mètres. Les températures hein, sur les Hautes-Alpes, 5 à 10 degrés. Pour les Alpes de Haute-Provence, là aussi, des nuages le matin qui donnent de faibles averses, notamment au nord de Sisteron et sur l'Ubaye, avec des températures qui là aussi fléchissent largement. Les maxis de 9 jusqu'à 14 degrés pour cet après-midi. Mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale entend ne rien lâcher.
De nouveau, rassemblement demain, 10h devant la préfecture de Gap, 14h à Digne-les-Bains avec des bus qui achemineront les manifestants depuis Manosque, Sisteron, La Brianne et Château-Arnoux-Saint-Auban. À Briançon, rassemblement également de 10h à midi avec un blocage filtrant au rond-point de Leclerc. Sur vos routes, si vous empruntez la 51 les nuits prochaines, c'est-à-dire ce mardi, ce mercredi et ce jeudi, attention, l'échangeur de Cadarache sera fermé en raison de travaux, un pont franchissant le canal EDF va être créé. Les bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur dans le sens ex-Gap et Gap-Ex seront fermées durant ces 3 nuits, de 21h à 5h du matin. Des itinéraires de déviation seront mis en place. La digue des colporteurs à Barcelonnette va aussi entrer en travaux. Un chantier de sécurisation sur 7 tronçons pendant 3 ans pour un montant de 6 millions d'euros. Dès le 17 avril et pendant 7 semaines, les engins de chantier s'installeront entre l'allée des Dames et la départementale 209. Des travaux qui auront un impact sur la circulation et le quotidien des habitants. Une réunion publique aura lieu ce soir à 19h, salle du marché couvert. Sachez que 17 500 voitures traversent la digue des colporteurs, 800 poids lourds l'été.
Et puis cette dure décision à Montclar, hein, la station qui a dû fermer ce dimanche.
Plus assez de neige en raison du dérèglement climatique et de la pluie ces derniers jours, comme l'explique le comité de direction. C'est donc une fermeture une semaine avant la date prévue. Décision prise à contre-cœur après en avoir informé les salariés, les acteurs économiques, le comité social d'entreprise et la maire Béatrice Savornin. Une saison d'hiver compliquée pour Montclar qui avait déjà dû fermer la semaine une partie de son domaine pour faire face au prix de l'électricité multipliée par 4. Alors on ne veut pas céder au pessimisme, la station pense déjà à la saison d'été avec une ouverture dans 2 mois, c'est-à-dire le 6 mai.
VTT, trail, randonnée, parapente, via ferrata, l'offre d'activités de pleine nature ne manque pas sur Provence Alpes Agglomération.
On compte par exemple 150 itinéraires pédestres, 80 de VTT ou encore 35 parcours trail. Il ne manquait qu'un schéma pour mieux structurer la filière et la développer, surtout que l'agglomération couvre 3 destinations touristiques, la Haute-Provence, le Verdon et Pure Alpes. Et donc, c'est chose faite depuis hier avec un document qui court jusqu'en 2026. Mathieu Vincent, responsable service activité de pleine nature à Provence-Alpes Agglomération.
Ce schéma, c'est un travail à plusieurs. L'agglomération conduira ses actions dans le cadre de ses domaines de compétences qui sont liés à la randonnée. Donc on va continuer à travailler sur la randonnée pédestre, sur le trail, sur le VTT, sur le vélo de route, sur la gestion de la via ferrata de Digne, sur l'aménagement de sites naturels remarquables. Et puis, après, les stations travaillent, elles, de leur côté, sur la diversification des activités en station pour la saison hivernale et puis finalement une ouverture le plus longtemps possible. On le fait actuellement sur le site du Fangé, qui est de gestion communautaire. Et puis après, on gère des sites naturels également, sur lesquels on essaie de travailler plutôt sur une approche écotouristique pour valoriser notre patrimoine, sur une notion de découverte du milieu naturel et de sensibilisation des pratiquants et des usagers.
14 actions sont déjà fléchées, notamment développer la pratique des sports outdoor vers les habitants, mettre en place des séjours touristiques dédiés aux sports de nature ou encore avoir une approche vertueuse des aménagements en supprimant le PVC pour le balisage des itinéraires.
Et la transition est toute faite pour reprendre la direction de Mignosque où des aménagements VTT illégaux seront bientôt détruits dans la forêt du Prieuré.
L'Office national de la forêt en a recensé une cinquantaine. Ils représentent un danger pour les pratiquants sur les sauts et les tremplins et génèrent aussi une gêne pour le bon développement de la faune et de la flore. Une réunion s'est tenue fin février avec tous les acteurs touristiques et politiques concernés ainsi que les clubs de VTT locaux. Et dès cette semaine, les ouvrages seront démontés. Une signalétique orientera les pratiquants sur les itinéraires balisés.
Dans le reste de l'actualité, malgré trois lois en matière d'accessibilité depuis 1975, eh bien la France a encore un retard notable en la matière.
C'est ce qui ressort du dernier observatoire des droits de l'APF, l'Association des paralysés de France. Elle ne voit aucune amélioration sur la reconnaissance des droits, sur l'information ou sur les démarches administratives qui restent complexes. Dans les Alpes du Sud, le bilan dressé par Cédric Carotte, directeur de l'APF dans les Hautes-Alpes et les Alpes-d'Haute-Provence, est quasiment similaire. Du chemin a tout de même été fait. Mais la volonté d'aller vers la population handicapée entre les deux départements et le traitement de l'APF semble bien différent.
Je vais me faire encore des ennemis sur le secteur du 05, donc les Alpes, les Hautes-Alpes. On sent une sincère écoute et il y a une envie. On sent qu'à chaque fois qu'on fait des propositions, on est entendu, on est reçu, on est écouté. Sur les Alpes d'Haute-Provence, c'est un petit peu plus dur. On n'arrive pas à être reçu, forcément.
Par
on n'arrive pas à être écouté.
Par qui ? Les pouvoirs publics ? Le département ? L'État ?
Non, aujourd'hui, on avait le sentiment de ne pas avoir été entendu par la Maison départementale des handicaps. Mais il y a eu un certain nombre d'efforts qui sont notables. Par exemple, sur l'accueil, on passe d'un peu moins d'un ETP à l'accueil des personnes handicapées. On sait que le premier accueil, la première démarche, c'est la plus difficile à trois.
Donc trois équivalents temps plein.
Pour nous, c'est un changement remarquable.
Cédric Carotte, qui était l'invité du 8-30 hier, un entretien à retrouver dans son intégralité sur alpe1.com.
Allez, politique avec la fin du suspense à Crau-d'Anlan, Brunet, Jean-Pierre Gandois a été réélu.
Le maire sortant avait remis son écharpe en jeu après la démission de plusieurs conseillers municipaux. Arrivé en tête lors du premier tour, les bulletins lui auront redonné raison. Une victoire avec 53 voix d'avance sur François Lagier et Carole Chauvet qui s'étaient ralliés dans l'entre-deux-tours. 12 sièges reviendront à la majorité municipale, 3 à l'opposition, une opposition à laquelle ne fera pas partie Carole Chauvet qui prend acte de cette élection mais démissionne. Elle dit se retirer définitivement des affaires communales de Crau mais reste cependant conseillère départementale.
Alors que la France compte les jours avant les JO de 2024, un haut alpin va participer à des internationaux un petit peu plus, on va dire, particuliers.
Éric Pélia, il est l'araignée, il s'alignera aux 10e internationaux à Bilympics du 23 au 25 mars. Ils sont au métier ce que les paralympiques sont au sport. Ces Jeux olympiques de la compétence verront la participation d'une délégation française, 34 personnes handicapées. Éric Pélia, lui, s'alignera dans la catégorie conception d'affiches. Il s'est reconverti dans le graphisme après un accident de travail. Après des entraînements sur plus de 2 ans au sein de l'équipe de France, c'est donc son talent qui va parler.
J'en oublie en fait mon handicap et ça me permet de pouvoir me transcender et surtout je suis vraiment à fond dedans et justement on arrive à oublier en fait notre handicap, d'autant plus qu'on a quand même la chance d'avoir derrière cette association des Olympiques qui nous épaule et qui a mis en place en fait une adaptation de notre handicap pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Ça peut aller de sièges adaptés, fauteuils, traducteurs pour les personnes, pour les langages des signes, pour les gens qui sont malentendants. Voilà, en fait, toutes les adaptations qu'il peut y avoir pour le handicap, quoi. L'épreuve se disputera, en fait, pendant 6 heures. On aura donc un panel, un thème imposé, déjà. On utilisera du texte, des formes, des photos, la couleur. évidemment des logiciels dédiés imposés, qu'il faudra qu'on mette en place une affiche dans ce temps donné.
Et notez que les Habits Olympiques se tiennent cette année en France au Parc des Expositions de Metz.
Et c'est donc un savoir-faire ancestral qui parle actuellement à Vologne, c'est l'art de la calade.
C'est l'art de pierrer, de paver les rues, une technique particulièrement écologique qui était autrefois très répandue. Si elle s'est perdue avec le temps et le développement du bitume, elle n'est pas oubliée à Vologne, où le chemin de Charreras voit des bénévoles de l'association Opus pratiquer la calade depuis 2020. Et jusqu'au 26 mars, ce sont des petites mains venues de l'étranger, des jeunes de 18 à 29 ans, de Tunisie, du Liban, d'Italie, mais aussi de France, qui vont découvrir pendant 2 semaines cet art sous la houlette de cette association vaucluzienne et notamment sa chargée de projet Adeline Feuillat.
Ils ont une partie vraiment manuelle à apprentissage de la construction parce que pour nous, la transmission des savoirs se fait non seulement par la théorie, mais aussi par la pratique. Et ensuite, ils vont devoir retransmettre cet apprentissage qu'ils auront acquis par le biais de la création de panneaux didactiques qui seront prochainement installés dans la rue où ils auront travaillé. Ils ont toute une découverte du territoire et en particulier donc de la calade dans sa manière globale avec des visites de terrain où ils pourront découvrir donc des calades un petit peu remarquable. Entre autres, ça va être à Ganagobi, où il y a une très belle calade au sol, mais aussi à Fort-Calquier, Man, Salagon ou bien Sisteron.
Et même s'ils ne deviendront peut-être pas caladeurs à l'avenir, ces jeunes qui sont sans emploi et non scolarisés auront un certificat européen à la fin de l'atelier. Cela n'équivaut pas à un diplôme, mais à une véritable preuve de connaissances et de compétences.
Un mot de sport, hockey sur glace, Diable Rouge sérieux, hein, malgré le manque d'enjeux.
D'ores et déjà assuré de descendre en D1 la saison prochaine, la formation briançonnaise ne prend cependant pas cette poule de maintien à la légère, comme l'atteste sa victoire en prolongation dimanche face à Anglet. Les hommes de Daniel Sedlak espèrent réaliser la passe de 2, toujours à domicile ce soir contre les Aigles de Nice. Les Diables Rouges accueillent ce mardi donc à 20h les Azuréens.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.